I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nous, humains, on a fait le choix de faire de moins en moins d'enfants.
Au moment où je vous parle, ce déclin est déjà bien entamé dans certains pays du monde.
On trouve par exemple des villages où il n'y a quasiment plus que des vieux. On voit des maisons fermées, la végétation qui a envahi tout le paysage.
Salut, c'est Xavier Yvon. Cet été, nous vous proposons une sélection des meilleurs épisodes de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près.
Trop d'êtres humains partout sur la Terre, des ressources limitées, une humanité qui étouffe sous sa propre prolifération. On est habitué à imaginer une population mondiale en croissance perpétuelle jusqu'à l'excès et l'épuisement de la planète.
Surpopulation. Explosion démographique, bombe humaine, on a tous entendu ces expressions censées désigner la principale menace qui pèserait sur l'humanité. Elle grandit trop vite pour une planète trop petite. Sauf que, de plus en plus de démographes s'accordent pour dire que d'ici la fin du siècle, la planète va en fait se vider de ses habitants. La population mondiale atteindra un pic et puis elle diminuera rapidement. Alors ce ne sera pas pareil partout évidemment, mais ça sera spectaculaire à certains endroits. Ça bouleversera les équilibres mondiaux avec des effets parfois inattendus.
It's not a good thing, it's not a bad thing. But it'll be the biggest thing that happens this century.
On ne peut pas dire si ça sera un bien ou un mal, mais ça sera le plus gros changement de ce siècle. Ce changement, c'est le déclin de la population mondiale. Voilà ce que dit Darrell Brecker que vous venez d'entendre. Il a coécrit le livre Empty Planet, Planète vide en français, et il est interviewé dans le numéro de l'Express qui sort aujourd'hui par Thomas Malheur, directeur adjoint de la rédaction. Salut Thomas.
Salut Xavier.
Thomas, la thèse fascinante de ce livre est de plus en plus d'actualité.
Oui, alors ce livre a été publié en 2019. Il faut savoir que depuis, les données n'ont fait que confirmer ce que les auteurs disent dans ce livre. Alors aujourd'hui, on est 7,8 milliards d'humains sur cette planète. Selon les Nations Unies, on va atteindre un pic de 11 milliards à la fin du 21e siècle. Et après ça, la population mondiale va décliner. Mais de plus en plus de démographes estiment que ces estimations sont beaucoup trop élevées. Et par exemple, l'année dernière, il y a une étude parue dans The Lancet qui annonce un pic de 9 milliards d'habitants en 2064. Et après ça, il va y avoir une chute inexorable. Et même les Nations Unies, en fait, ont revu leurs projections à la baisse.
Et qu'est-ce qui explique cette baisse qui semble inévitable de la population mondiale ?
C'est très simple, Xavier. En fait, nous, humains, on a fait le choix de faire de moins en moins d'enfants. Donc, on assiste à une baisse de la natalité partout dans le monde, ou presque. Par exemple, la Russie, qui a un taux de natalité très faible, et en plus, qui a une espérance de vie relativement faible, elle a déjà moins d'habitants que du temps de l'URSS, donc à la fin des années 80. Mais en fait, ces taux de fécondité chutent partout, dans toutes les régions, en Asie, en Amérique latine. Par exemple, le Brésil, c'est moins de 1,8. 8 enfants par femme. Le Bangladesh, qu'on imagine grouillant d'enfants, en fait, c'est un taux de fécondité de 2, ce qui veut dire que c'est en dessous du seuil de renouvellement des générations.
Oui, parce que c'est 2,1.
Ouais, c'est ça. Mmh.
Et on a vu aussi que les naissances ont diminué depuis le début de la pandémie. Est-ce que le Covid va accélérer cette baisse de la natalité dans le monde ?
Alors, aux États-Unis, la Brookings Institution a même estimé à 300 000 le nombre de bébés américains qui sont pas nés à cause du Covid. Depuis ces derniers mois, on a assisté à une petite remontée de la natalité dans différents pays comme la France. Mais il est fort probable que cette pandémie n'a fait qu'accélérer une évolution de longue durée qui est la baisse du nombre d'enfants. Il faut avoir conscience que si la population mondiale aujourd'hui continue à grandir, c'est essentiellement parce que les humains vivent de plus en plus longtemps et non pas parce qu'on fait plus d'enfants.
Et justement, pourquoi les humains font-ils moins d'enfants ?
Alors, les experts avancent plusieurs facteurs, mais Darrell Brecker et Johnny Bidson aiment bien résumer ça par un mot, c'est l'urbanisation.
Urbanisation est le big driver.
Depuis 2007, le nombre d'humains vivant en ville sont plus nombreux que ceux qui vivent à la campagne. Et cette évolution a des conséquences très fortes sur la natalité. C'est simple, en fait, à la campagne, les enfants sont vus comme des bras supplémentaires, donc c'est des atouts économiques. Et en ville, en revanche, c'est des coûts, parce que ils font des études, donc pour les parents, c'est plus un désavantage économique. L'urbanisation aussi joue un rôle essentiel pour l'éducation des femmes. En ville, il y a plus d'écoles, un meilleur accès à Internet, plus de librairies, et les femmes aussi fréquentent d'autres femmes. Et donc, une fois qu'elles ont cet accès à cette liberté de pouvoir faire des études, elles veulent contrôler leur vie et leur corps, ce qui passe par faire moins d'enfants.
Et Thomas, il y a des pays où c'est particulièrement le cas ?
Le cas de la Chine est vraiment très marquant. En 1960, seuls 15% des Chinois habitaient en ville. Aujourd'hui, c'est plus de la moitié, ce qui fait que le taux de fécondité s'est effondré. Aujourd'hui, si le chiffre de 1,3 annoncé par le recensement chinois de 2020 est correct, il faut savoir que ce pays peut perdre la moitié de sa population d'ici la fin du siècle. Donc, ça passera de 1,4 milliard aujourd'hui à 700 millions en 2100. D'où la panique du régime chinois qui a donc autorisé les couples à avoir 3 enfants, mais en fait, ça, les experts s'accordent à dire que ça changera sans doute rien.
Et l'Afrique, on nous annonce depuis des années qu'il va y avoir un boom démographique en Afrique. Est-ce que c'est ce qui va se passer ou est-ce que l'Afrique aussi, la population va diminuer?
Alors déjà, il faut savoir que l'Afrique du Nord a un taux de natalité beaucoup moins élevé qu'on ne le pense. La Tunisie, par exemple, c'est un taux de fécondité de 2,2, pareil la Libye. La vraie exception, en fait, c'est l'Afrique subsaharienne. Le recordman en la matière, par exemple, c'est le Niger, où les femmes font encore plus de 7 enfants en moyenne. Mais l'Afrique subsaharienne n'échappera, elle, pas non plus à cette chute de la natalité. Elle suivra le reste du monde. La seule vraie question, c'est de savoir à quelle vitesse les démographes sont pas tous d'accord sur ce sujet. En fait, il faut réaliser qu'il a fallu 150 ans à l'Europe pour arriver à nos taux de fécondité actuels. L'Amérique latine, ça a été 50 ans. On peut parier que l'Afrique subsaharienne, ça prendra encore moins de temps du fait de l'accès à la technologie, de l'éducation, de l'urbanisation qui explose là-bas. Par exemple, le Kenya, qui avait un taux de fécondité de 8 dans les années 60, a aujourd'hui un taux de fécondité de 3, ce qui est une diminution spectaculaire. Donc c'est juste une question de temps.
Ces projections vous semblent peut-être un peu lointaines, mais au moment où je vous parle, ce déclin est déjà bien entamé dans certains pays du monde. Et on prend la direction maintenant d'un pays qui se vide à un rythme effréné. Il comptait 9 millions d'habitants il y a 30 ans, 7 millions aujourd'hui, 5,4 millions d'ici 2050, selon les projections de l'ONU. Ce pays, c'est la Bulgarie, l'un des endroits du monde qui se dépeuple le plus rapidement. Mais on peut encore y croiser la correspondante de l'Express en Europe de l'Est, Nadia Bletri. Bonjour Nadia.
Bonjour.
Ça ressemble à quoi aujourd'hui, Sofia, la capitale de la Bulgarie?
Alors, la capitale bulgare, c'est une ville qui compte officiellement 1,2 million d'habitants, sans doute davantage en fait, mais ce qui est sûr, c'est que c'est la plus grande ville du pays. Alors, comme dans toutes les régions où il y a des hivers froids, quand le printemps et l'été arrivent, il y a vraiment un air festif. Des musiciens dans les rues, des jeunes, et puis des habitants qui revivent dehors, en fait. Et par ailleurs, Sofia, c'est une ville qui est dynamique, et y compris économiquement. En fait, puisque la Bulgarie a affiché ces dernières années, avant la pandémie, plus de 3% de croissance. Il y a donc une belle énergie à Sofia.
Donc le dépeuplement de la Bulgarie, on le constate ailleurs quand on se promène dans le pays?
Le dépeuplement de la Bulgarie, ça se voit surtout dans les campagnes, et en particulier dans le nord-ouest du pays. C'est la région la plus pauvre de la Bulgarie, et donc la plus pauvre de l'Union européenne aussi. Et alors concrètement, comment ça se voit? En fait, il y a des localités qui ont des allures de villes fantômes. On trouve par exemple des villages où il y a quasiment plus que des vieux. On voit des maisons fermées, la végétation qui a envahi tout le paysage. Et moi, la dernière fois, par exemple, dans un petit village à peu près à 120 km de Sofia, j'ai croisé un homme de 75 ans qui me disait qu'il avait l'impression de devenir fou, en fait, à force d'être seul et de ne plus parler qu'à ses poules et à ses chiens.
Wow.
Alors, les gens se plaignent aussi du manque d'infrastructures. Et puis, c'est vrai qu'il y a certains corps de métier qui commencent à manquer en Bulgarie. Alors, je pense par exemple aux médecins, qui sont notamment très convoités à l'Ouest. Alors, c'est vrai qu'ils sont mieux payés à l'étranger que chez eux. Et puis, ils peuvent exercer la médecine avec plus de moyens, puis avec des infrastructures plus compétitives. Donc, en fait, ils partent.
Qu'est-ce qui se passe en Bulgarie, Nadia? Pourquoi la Bulgarie se vide à ce point-là?
Alors, en Bulgarie, il y a plusieurs facteurs qui expliquent que le pays se vide. C'est d'abord un exode massif. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a environ 2 millions de Bulgares expatriés. Et en fait, les vagues de départ, elles ont commencé après la chute du communisme. On pourrait dire que c'est un exode qui pouvait avoir une dimension politique, en fait, dans les années 90. Mais c'est vrai que depuis 2007, et depuis l'entrée du pays dans l'Union européenne, en fait, les Bulgares partent essentiellement pour des raisons socio-économiques. Ils veulent trouver une vie meilleure, de meilleures infrastructures, de meilleurs salaires. Alors, évidemment, tout cet exode qui est associé au vieillissement de la population et puis à une baisse de la natalité, ça donne un cocktail assez détonnant, en fait, qui fait que la Bulgarie se vide de ses forces.
Et l'État bulgare, il fait quoi face à cet exode?
Alors, que fait l'État bulgare? C'est une bonne question. En fait, l'État bulgare a annoncé beaucoup de mesures ces dernières années. Mais en réalité, je crois qu'il y a plus de 25 agences étatiques qui sont aujourd'hui chargées de lutter contre cette saignée démographique. Mais le problème, c'est qu'en termes de résultats, c'est vraiment inefficace. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives privées pour freiner cet hiver démographique.
Comme quoi?
Justement, en ce moment, dans les rues de Sofia, on peut voir des grandes affiches avec le visage de deux stars de la télé. Et ils viennent de monter une plateforme Internet pour essayer en fait, de faire rentrer les talents en Bulgarie. Alors concrètement, ils filment la réussite d'entrepreneurs, c'est des petits portraits de 3 à 5 minutes qu'ils postent sur leur plateforme. Et en fait, ils fonctionnent vraiment comme une petite agence pour l'emploi. Alors ils mettent en relation des demandeurs d'emploi et des entreprises, mais ce n'est pas les seuls. On voit aussi aujourd'hui des entreprises, pareil, en manque de main-d'œuvre, qui mettent en place des incitations au retour. Alors elles offrent à leurs employés des billets d'avion pour rentrer, un mois de salaire, ça peut être aussi des aides à la réinstallation. Alors évidemment, tout ça, ce sont des exemples parmi d'autres parce qu'en fait, on a vraiment le sentiment en Bulgarie qu'une partie de la société civile a bien conscience des risques pour le pays, en fait, si jamais les tendances perdurent.
Mais justement, c'est quoi ces risques pour le pays?
Là encore, la situation la plus préoccupante, c'est celle des campagnes. En fait, il y a une étude de l'Académie des sciences bulgares qui vient d'être publiée et elle explique qu'en 2040, les deux tiers environ du territoire bulgare seront des déserts démographiques si rien ne change. Et alors évidemment, ce déclin a des conséquences qui sont lourdes. Il y aura de plus en plus de personnes âgées et ça va avoir des répercussions sur tout le système social et puis sur les retraites en particulier. Mais alors, ce qu'il faut bien préciser aussi, c'est que si la Bulgarie est championne de la dépopulation, c'est pas la seule. Elle est suivie de près par les autres pays des Balkans qui eux aussi voient leur pays perdre leur population.
Donc l'Europe de l'Est et la Bulgarie en particulier expérimentent un peu avant le reste du monde les conséquences d'une baisse drastique de population. Et on voit d'ailleurs que c'est dramatique. Pourtant, vous allez l'entendre, moins d'humains sur Terre, ça n'est pas forcément une mauvaise chose. On va friser la surpopulation, mais j'accueille maintenant dans le studio Cyril Pluyette du service Monde de l'Express. Salut Cyril.
Salut Xavier.
Tu es l'un des auteurs du grand dossier sur la démographie mondiale qui fait la une de l'Express cette semaine. Alors on va voir avec toi ce que ça veut dire une planète moins peuplée. D'abord, pour l'économie mondiale, ça aura quel impact?
Alors c'est en effet une mauvaise nouvelle pour l'économie mondiale. Ça fait plusieurs siècles que l'économie repose largement sur la consommation. Moins de personnes sur la planète, ça veut dire moins de consommation.
C'est mathématique.
Et puis, la planète va vieillir, donc il y aura moins de jeunes. Or, ce sont beaucoup les jeunes qui achètent des biens d'équipement qui tirent justement cette consommation. L'autre point négatif, c'est la baisse de la population active, qui va aussi avoir un impact sur l'économie, notamment dans des pays comme la Chine, qui va le sentir très fortement. Et puis, bien évidemment, l'innovation s'en ressentira aussi, puisqu'il faut être nombreux et plutôt jeunes pour inventer des technologies du futur.
Oui, donc d'ici la fin du siècle, il y aura moins d'habitants sur Terre et tu viens de nous dire, ils seront aussi plus vieux en moyenne qu'aujourd'hui. Et ça, Cyril, tu m'as dit que ça allait avoir un effet sur les conflits armés.
Oui, alors c'est-à-dire qu'une population plus âgée, c'est aussi une population qui a moins tendance à faire la guerre et qui a moins tendance à se révolter aussi. La France, au moment de la Révolution française, puis des guerres napoléoniennes, était extrêmement jeune. La Révolution iranienne en 1979 s'est fait aussi à une époque où le pays était très jeune. Donc, ces pays-là qui vont vieillir auront peut-être moins tendance à vouloir faire la guerre à leurs voisins. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ces pays seront parfaitement calmes. Il va y avoir beaucoup de tensions internes, notamment par rapport à la question des migrations. On sait que les sociétés plus âgées sont plus sensibles aux problèmes sécuritaires, en tout cas à ce qu'ils perçoivent comme des risques sécuritaires. Donc, il y a plus un danger que ces sociétés se ferment et que ça crée des conflits internes.
Et pour finir, Cyril, moins d'humains, ça veut dire moins de pollution. Donc, on pourrait se dire que c'est plutôt une bonne chose pour la planète.
Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle à première vue, puisque quand on observe à la fois les courbes de l'évolution de la population et d'évolution des températures sur la planète, on s'aperçoit qu'elles progressent toutes les deux très fortement depuis l'âge moderne. Et donc, moins d'humains, mathématiquement, peut aider à réduire les émissions de CO2. Mais d'un autre côté, ce n'est pas aussi simple, puisque aujourd'hui, ce sont surtout évidemment les pays très développés, comme les États-Unis, qui émettent énormément de CO2, beaucoup plus que certains pays, évidemment, en développement. Or, ces pays vont avoir tendance à vouloir rattraper le niveau économique, et c'est très bien, du reste du monde, ce qui se traduira aussi par des émissions de CO2 supplémentaires. Et puis, l'autre bémol, c'est qu'une planète moins jeune, c'est aussi, comme on le disait précédemment, une planète qui a moins de ressources pour innover. Or, il faudra des jeunes pour inventer les solutions écologiques de demain.
Eh bien, merci Cyril. Le dossier complet démographie de cette semaine est à retrouver sur le site de l'Express et en kiosque. Nous, on espère bien que la population qui nous écoute va continuer de grandir. Alors, si vous voulez participer au boom démographique de la Loupe, parlez-en autour de vous, abonnez-vous, mettez-nous des étoiles sur vos plateformes d'écoute, Apple Podcasts, Deezer ou Spotify. Cet épisode a été fabriqué avec Louis Coutel, Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la Loupe.